par tout l'ouvrage. Alors finalement, quelle est la différence entre un discours moraliste et un discours moral? Alors ce qui diffère les deux termes, c'est avant tout l'attitude que l'on adopte par rapport aux conséquences pratiques de nos positions. Être moraliste, c'est se poser comme étant la personne qui sait tout et qui, avant tout, a une posture de prophète pour apporter une sorte de vérité absolue. C'est déjà prendre position dans un problème, alors qu'être moral, c'est avant tout choisir de reposer le problème en prenant en compte des principes éthiques. Contrairement à un discours moraliste, un discours moral s'attache à prendre en compte les conséquences pratiques des comportements des individus. J'ai ici une citation d'Émilie qui résume bien cette distinction. « Agir moralement ne consiste pas à émettre des jugements de valeur sur des faits, mais de répondre à des protagonistes réclamant d'être traités aussi comme des fins, c'est-à-dire d'être pris en compte. » Fin de citation. Le rôle du philosophe moral et pragmatique, ce n'est pas faire la morale, ni d'avoir un discours moralisateur, mais c'est pointer du doigt les problèmes moraux. Il faut tenter d'expliquer les relations morales, de les décrire sans porter de jugement. On problématise les rapports moraux entre les humains et les non-humains, et aussi, ça sera tout. Fin de phrase, pardon. Le philosophe moral a une position pragmatique et non utilitariste dans la mesure où il privilégie pas un choix moral plus qu'un autre, mais il est là pour rappeler avant tout qu'il existe plusieurs choix moraux et que tous ces choix moraux ne peuvent pas être satisfaits en même temps. J'en passe maintenant à une deuxième partie qui sont les étapes de la réflexion. Finalement, quels seraient les prérequis pour éviter de tomber dans cette position moraliste ? Il y a trois grandes attitudes à suivre. La première, c'est relativiser. La seconde, mobiliser son expérience. Et la troisième, faire des compromis. Alors, relativiser, la première prérequis, c'est vouloir mettre sur le même plan différents appels moraux pour les traiter de la même manière et les concevoir comme un tout. Par exemple, il faut être capable de mettre en rapport la crise écologique avec la crise économique. C'est en quelque sorte un relativisme moral qui permettra de se protéger contre un discours moraliste qui privilégie un problème par-dessus un autre. Il faut savoir également mobiliser son expérience, c'est-à-dire mobiliser sa connaissance et son expertise pour répondre avec intérêt aux problèmes qui nous sont posés. Cela implique au minimum d'adopter d'autres points de vue, de se mettre à la place des non-humains qui portent en eux une demande morale envers les humains. L'auteur fait alors une bonne référence à Aldo Leopold qui affirme que l'on doit se projeter à la place de la nature comme si on était une montagne par exemple, ou comme si on était une rivière. Enfin, le troisième prérequis, c'est d'élaborer des compromis, ce qui correspond en fait à faire une introspection sur soi. On ne parle pas ici d'élaborer un compromis avec un autre, mais d'abord un compromis avec soi et ses principes. Ce compromis, c'est être prêt à abandonner ses principes, normes et valeurs pour en forger de nouveaux. Il faut être en mesure d'avouer que l'on n'a pas toujours raison et qu'il faut adopter de nouvelles postures pour répondre à la complexité des crises. Le compromis, c'est alors remettre en question ces questions morales au jour le jour pour répondre adéquatement aux problèmes qui nous sont posés. Ainsi, dans cette démarche, Émilie m'a beaucoup fait penser aux remarques qui ont été faites d'ailleurs par Bourdieu, Chambordon et Passeron dans un ouvrage que je lisais en parallèle qui était Le métier de sociologue. En effet, Bourdieu, Chambordon et Passeron affirment que la sociologie, tout comme la philosophie, au final, s'attache à répondre aux questions ultimes de l'avenir de nos civilisations et que cette position engendre rapidement une posture de prophète. Et pour éviter ce prophétisme, on doit toujours adopter une démarche de retrait par rapport à son objet qui se manifeste par une rigueur épistémologique. Or, c'est ce que fait ici Émilie, à mon sens, car son ouvrage est parcouru par l'obsession de se détacher de cette position moraliste et prophétique au profit d'une position morale qui s'intéresse davantage aux conséquences des discours et des actes moraux plutôt que dénoncer ce qui devrait être fait. Je passe maintenant à ma seconde partie de l'exposé et je vais m'attacher tout d'abord à repenser nos prérequis, justement à faire ce compromis avec soi et notamment repenser la notion de progrès. C'est dans cette notion de progrès, finalement, qu'on ne pose pas la question des générations futures. Et c'est ce qui pose problème avec cette notion de progrès, puisque progrès implique que ces mêmes générations vont pouvoir être en mesure de régler les problèmes du présent grâce aux technologies du futur. L'éthique du progrès se pose dans ce cas à l'éthique de l'avenir, dans laquelle on pense le futur avec une responsabilité morale. Avec l'éthique de l'avenir, on tente de prendre en compte le futur sans passer par la notion de progrès, mais en pensant aux conséquences de nos actions. L'idée n'est pas d'abolir le progrès, mais de suspendre cette notion, car la culture du progrès inhibe l'attention pour l'avenir. Sortir de la notion du progrès, c'est alors s'acquitter de la dette que nous laissons aux générations futures. C'est aussi réintroduire un mouvement d'hésitation avec l'avenir. C'est faire appel à différents scénarios, à prendre en compte celui qui sera le plus adéquat pour nos relations aux générations futures, et à avant tout prendre conséquence de nos actes. C'est aussi faire en sorte que de trouver un scénario qui ne sera le plus, en tout cas le moins lourd à porter pour les générations à venir. Pour cela, il faut construire le futur comme un fétiche au sens de la tour à nouveau, c'est-à-dire ne pas considérer le futur comme un sujet inerte, mais comme un sujet en relation avec les humains. Il faudrait prendre en compte la relation avec le futur comme une chose sérieuse sur laquelle on pense moralement aux conséquences de nos actes. Il est également d'autres choses qu'il est nécessaire de considérer comme fétiche, pas seulement le futur pour répondre à la crise écologique, mais également la nature, bien évidemment. Et ça va être ma deuxième sous-partie, les relations entre les humains et les non-humains. Alors ça, c'est le début d'ouvrage d'Émilie, qui part du principe que l'écologie est avant tout une science du vivant. Elle estime que la crise écologique, c'est une crise de la nature et de ses interactions avec les humains. Pour régler le problème, il faut donc repenser ou s'interroger sur les interactions entre les humains et la nature. Il faut s'attacher à revoir notre rapport avec des collectifs, c'est-à-dire les non-humains. Pour l'auteur, cela a fait appel notamment au philosophe allemand Jonas Hans, qui découvre une dimension morale aux non-humains. L'idée serait que si on se met à l'écoute de ces non-humains, à l'écoute de la nature, on apercevrait alors que ces derniers nous appellent sur le problème écologique. Notre attitude morale est alors de prendre en compte cet appel et de tenter d'y répondre. Cette réponse doit traiter les non-humains comme des fins et non pas comme des moyens. Pour considérer la nature et l'environnement comme une fin, il faut instaurer une nouvelle relation et repenser les non-humains comme des personnes, à l'image des scientifiques qui, par exemple, c'est un cas que Émilie donne dans son ouvrage, des scientifiques qui étudient les singes non pas comme des animaux, mais comme des individus, avec leur propre intelligence, leurs propres interactions, normes et valeurs. Il faudrait, pour reprendre un néologiste de Latour, écologiser, c'est-à-dire sortir du rapport naturaliste que nous avons avec les non-humains et adopter une position quasi animique. Pour reprendre les termes d'Escola, il faut changer notre rapport sur l'environnement et passer d'une ontologie naturaliste, celle qui a séparé la nature et les sciences, à passer plutôt à une ontologie de type animiste où les non-humains sont conçus comme des personnes ayant leurs propres interactions, normes et valeurs. Il existe déjà, à vrai dire, des réponses à ce sujet qui tentent d'adopter une position morale à cette crise écologique, et c'est ce que nous allons voir dans une dernière partie. Et je vais d'abord m'intéresser aux sciences. C'est par le développement de notre connaissance que la science nous autorise à comprendre mieux ce qui compose notre environnement et comment notre environnement tente de cohabiter et de communiquer avec nous. La science nous autorise à cerner davantage les enjeux de la crise écologique afin d'y répondre d'une manière plus appropriée. C'est justement cela la position morale de la science. L'idée que sa démarche implique mieux de connaître notre environnement et les non-humains pour proposer une cohabitation plus adéquate. Et c'est par exemple une thèse qui a été évoquée dans les années 1970, c'est l'hypothèse Gaïa. Cette hypothèse a été énoncée par James Lovelock et Lynn Margulis et suppose que notre planète finalement serait un gigantesque écosystème qui comprend la biosphère terrestre, l'atmosphère, l'océan et la Terre. Avec cette thèse, on affirme que tous les vivants sur cet écosystème ont une histoire commune et sont dépendants les uns les autres. La planète Terre passe donc, de la conception d'un astre inerte, comme on avait l'habitude de la concevoir, à celle d'un être vivant, un super-organisme sur lequel nous ne sommes finalement que des occupants. Avec cette hypothèse, si on conçoit la Terre comme un vivant doté de besoins et capable d'agir, il faut conséquent lui prêter une attention toute particulière, comme nous prêtons attention avec les humains. En somme, la science peut être un moyen d'objectiver la morale dans la mesure où les expérimentations et les vérifications scientifiques démontrent la nécessité d'adopter une position éthique envers les non-humains. Par exemple, c'est en mettant en évidence le réchauffement climatique que la science a démontré qu'avoir une éthique écologique, ce n'était pas être moraliste, mais c'était avant tout avoir une position morale, c'est-à-dire de la nécessité de pérenniser notre espèce en tentant de sauver notre planète. Je passais à une deuxième conception, une deuxième sphère de la société qui considère également cette notion morale, c'est celle de l'économie. En termes économiques, on parle souvent d'internationaliser les externalités lorsqu'on est moraliste, c'est-à-dire prendre en compte la distribution du produit, sa fin de vie et ses possibilités de recyclage. Cela s'illustre dans les développements durables ou le commerce équitable, où l'on redistribue davantage la plus-value aux producteurs régionaux afin de pérenniser leur exploitation. Le commerce équitable fixe les prix d'une manière plus juste en allongeant la liste de ceux qui sont pris en compte dans le calcul du prix de vente. Cela n'implique pas une systématique augmentation des prix, mais engage avant tout à une autre répartition de la plus-value. Une économie morale, c'est une économie qui prend en compte le coût de la production sur les générations futures également, comme le système des AMAP par exemple, celle des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Pour cela, le coût d'un produit ne doit pas être calculé en fonction des lois du marché et de son prix réel, c'est-à-dire selon la logique de l'offre et la demande, mais le prix doit être calculé en fonction de sa justesse par rapport à l'ensemble des coûts qu'il a suscité lors de sa production. Un prix juste, ce n'est pas un prix sur la morale, mais c'est prendre la question morale en amont de la définition du prix. Pour ça, je reprends une citation d'Émilie. C'est une prise en compte de ses scrupules dans l'évaluation des prix. Je passe maintenant à ma dernière sous-partie, et cette fois-ci dans une application beaucoup plus pragmatique de cette question morale, et notamment sur une application politique, en s'interrogeant sur la question des écologies politiques. Alors, Émilie affirme d'abord que les écologies politiques visent avant tout à lier nos attachements moraux aux pratiques politiques. En parlant de l'écologie politique, Émilie ne traite pas seulement des politiques qui se préoccupent de cette cause écologique, mais également des politiques qui ont une morale écologique, c'est-à-dire qui ne prennent pas seulement en compte la nature et l'environnement, mais aussi les interactions entre ces deux entités. Bien qu'Émilie évoque la question des OGM, comme on pouvait s'en douter, celle du nucléaire, ou l'émergence d'un nouveau public qui serait attaché à une consommation plus responsable, c'est plutôt sur l'organisation ACT UP Paris qu'elle s'arrête et choisit d'illustrer pour parler de cette écologie politique. Alors finalement, qu'est-ce qui fait que cette organisation ACT UP Paris ait cette morale écologique, bien que c'est une association de défense contre le sida? D'abord parce que ACT UP Paris met en avant l'idée de responsabilité partagée face à la transmission du VIH. On estime que tout le monde doit assumer la responsabilité de la transmission du VIH et qu'il n'y a finalement ni coupable ni victime. Dans cette démarche, on ne restreint pas l'épidémie du sida aux seules personnes séropositives, mais aussi on intègre les personnes séronégatives. Cette notion de responsabilité partagée par tous implique que la personne séropositive se protège durant un acte sexuel pour ne pas contaminer son partenaire, mais implique également que la personne séronégative prenne ses précautions pour éviter toute contamination. Avec cet engagement moral, on ne crée pas de statut de coupable ou de victime, car grâce à un compromis entre séropositif et séronégatif, on évite toute contamination. Or, ce cas de figure idéal ne se passe pas à chaque fois et tout le monde ne peut pas se protéger lors des rapports sexuels. Ce n'est pas toujours appliqué. Et d'ailleurs, il y a une association marseillaise appelée Femmes Positives qui exige la pénalisation des hommes qui ont transmis le sida à des femmes dans le cadre d'une relation stable. Et cette association féministe a obligé ACT UP à reprendre position, à de nouveau repenser ce principe de responsabilité qu'ils avaient énoncé, responsabilité partagée, dans l'idée que tout le monde devait être responsable. En fait, lorsque ACT UP a dû se repositionner, ça a créé des dissensions au sein du groupe et a lancé la création d'un autre groupe qui s'appelle Warning, qui lui considérait que le principe de responsabilité partagée n'était pas adéquat et qu'il faut reconnaître le statut de victime d'une personne contaminée sous le caractère d'abus de confiance. Mais ce statut doit néanmoins être nuancé puisqu'il doit... Il n'implique pas aussi que l'on doit pénaliser la personne qui a contaminé. En fait, l'idée, c'est de ne pas pénaliser systématiquement la personne qui a contaminé l'autre, puisque cette personne même est déjà victime en soi, puisqu'elle est victime de sa maladie, et également victime des stigmates qui sont liés au VIH. Ainsi, leur position morale a été de repenser le problème et de réfléchir à de nouveaux moyens de prévention sans chercher à stigmatiser ou à culpabiliser, tout en voulant que chacun se sente responsable de ce problème. J'en viens maintenant à ma conclusion. Et dans cette conclusion, je vais sortir de l'analyse et je vais avant tout donner mes impressions sur cet ouvrage. Et je voulais d'abord signaler que l'ouvrage est très agréable à lire, surtout quand on a souvent... des préjugés en tant que sociologue en se disant qu'on va pas avoir, on va avoir du mal à dire la philosophie, où il y a énormément de termes qui nous font peur, comme ce mot ontologique. Or, cet ouvrage, alors cet ouvrage a été très, très agréable à lire. Voilà. Et il a été d'autant plus agréable à lire puisqu'il a eu un... c'est à l'issue d'un concours de circonstances, puisque je l'ai lu à la suite de Par-delà nature et culture de Descola, qui est tout sauf agréable à lire. Et très intéressant, mais très difficile. Alors, justement, en venant Par-delà nature de Descola, je me demandais, alors ça c'était ma première remarque, je me demandais pourquoi tu n'avais pas du tout évoqué, sachant que quand j'ai, en fait, au bout d'une vingtaine de pages, on a vu que Latour était très important pour ton étude et que Latour, tout comme Descola, les deux sont des cas d'école pour cette étudier cette relation entre humain et non humain. Alors je me suis jeté dans ta bibliographie et, pour me dire, ah, Descola va arriver un moment dans l'ouvrage, et non, il n'y a aucun ouvrage de Descola. Donc je me demandais pourquoi cette absence. Je suis sûr que tu as une bonne raison. La deuxième remarque que j'avais à faire, c'est avant tout une remarque très positive, puisque j'ai largement apprécié tes références à la philosophie environnementale américaine, mais également plus globalement au mouvement environnemental américain, parce que c'est pas toujours le cas. Alors dans mon domaine de recherche, c'est d'ailleurs une catastrophe, puisque les recherches francophones et anglophones ne se lisent pas entre elles. C'est-à-dire qu'il y a, c'est un dialogue de sourds, et dans mon cas, on arrive parfois même à avoir des travaux qui sont redondants, puisque les uns n'ont pas conscience des autres. On prend pas la peine de lire dans une autre langue et de voir ce qui a été fait ailleurs. Or, toi, justement, tu as fait cette démarche-là. Tu as réussi à installer un dialogue entre les recherches françaises et anglophones, et c'était justement très pertinent. D'ailleurs, à ce sujet, c'est pour ça que j'ai ramené les ouvrages. J'ai aimé quand tu as cité Aldo Léopold. Donc voilà, Aldo Léopold. Également, le rapport du Club de Rome, qui était un des premiers à montrer qu'on ne pouvait pas lier croissance infinie sur une planète finie. Et enfin, à mon sens, un des meilleurs, Rachel Carson, Silent Spring, qui est une véritable poésie en prose. Enfin, dernière chose sur laquelle je voulais terminer, c'est sur Act of Paris. Encore une fois, le concours des circonstances a fait que j'ai adoré ce passage, puisque en fait, Didier Lestrade, cofondateur d'Act of Paris, du magazine Têtu, est un ami. Donc la dernière fois je l'ai vu, c'était le mois dernier. Donc quand j'ai lu toute cette partie sur Act of Paris, bah forcément ça m'a beaucoup plu, parce que tu en fais un cas assez pertinent. Et d'une manière générale, j'ai aimé ta capacité à montrer qu'une morale écologique allait bien au-delà des problèmes écologiques, mais traduit une démarche qui consiste à prendre en compte les problèmes autrement et de les considérer avant tout comme des fins en soi et non plus comme des moyens. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. Cette lecture qui m'envoie un travail qui finalement commence à dater, avec lequel je ne renouvelle pas du tout, avec lequel je suis pas vraiment d'accord, mais on va voir. Pour autant, il y a des choses un peu plus lointaines. Alors, concernant, tu avais deux questions, c'est ça?
Oui, la première c'était.
Sur des scolaires.
Voilà, pourquoi cette absence puisque,
que j'avais lu et que voilà. J'avais fait, tout à fait. La raison peut-être principale étant que c'était. Dans ce que vous, enfin, tout le monde, je pense, l'a lu ici, évidemment, la façon même dont il analyse notre rapport, nous, je sais pas, occidentaux, européens, enfin, je sais pas comment vous appelez, serait un rapport naturaliste. C'est avec quoi je suis en. Alors, j'aurais pu tout à fait discuter et expliquer les raisons pour lesquelles j'étais en désaccord avec ce point-là, et c'est la raison principale pour laquelle je ne me suis pas appuyé dessus.
D'accord.
Peut-être qu'une autre façon d'expliquer cela, c'est que, comme tu as pu le remarquer, à tort ou à raison, c'est pas un livre d'histoire de la philosophie.
Oui, oui, exactement.
Et donc, même si je m'y suis pliée un tout petit peu, parce qu'il s'agissait tout de part quand même d'un projet de thèse, l'idée n'était pas nécessairement de me situer par rapport à toutes les propositions, aussi bien philosophiques qu'anthropologiques, sur cette question-là. Et à partir de là, j'ai été plus intéressée par chercher des personnes qui pouvaient, avec lesquelles je pouvais être plus en accord pour pouvoir avancer, en gros, on va dire une reformulation en philosophie morale de ces questions écologiques à partir d'une approche pragmatique qui, pour moi, manquait en partie. Ouais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corpus de philosophie pragmatique, notamment américain, et que je ne m'y retrouvais pas nécessairement. Et que, voilà, c'était ça que j'avais envie de faire. Donc, à partir de là, pour faire ma petite soupe à moi, je me suis appuyé sur des auteurs qui étaient, que ce soit Latour, mais pas seulement, ou d'autres en philosophie, en sciences sociales, avec lesquels je n'étais pas nécessairement en désaccord. C'était pas, voilà, il ne s'agissait pas forcément de faire un travail exhaustif du paysage concernant cette question de la nature. Mais par ailleurs, je suis absolument, comme je pense beaucoup de gens, infiniment admiratif de son travail et je continue à penser avec lui, mais je suis aussi très très critique sur côté notamment systématique, plein de choses, et notamment sur le point très précis concernant cette question de la nature où je ne suis pas du tout certaine qu'on soit naturaliste. Ouais, à partir de là, c'était pas ça qui m'intéressait. Enfin, voilà, c'était pas ça qui m'intéressait pour essayer de manière contemporaine. Essayer de problématiser un certain nombre de questionnements d'écologie politique qui pouvaient aujourd'hui se formuler. Ça, d'accord. C'était peut-être la principale raison. Concernant, tu m'as posé une deuxième question sur l'éthique environnementale américaine.
Oui, enfin, c'est pas vraiment une question, c'était plutôt. En fait, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé finalement à aller voir outre-Atlantique, puisque c'est pas, enfin, à mon sens, tout le monde ne fait pas cela. C'est-à-dire que beaucoup de recherches qui restent franco-françaises, on est très content de faire ça. On n'a même pas envie d'aller voir ailleurs parce qu'on est fier de son identité nationale. Enfin, moi, c'est quelque chose, enfin, c'est en évidence, mais quelque chose qui, enfin, pour mon cas, dans mes recherches, c'est quelque chose de pas évident d'aller voir outre-Atlantique. Souvent, on a tendance à se cantonner à notre champ français.
Et donc, tu vas être certainement déçu par ma réponse. Il y a des raisons qui sont propres à notre discipline, notamment sur ces questions-là. Je ne pense pas que je t'apprendrai grand-chose en disant qu'en France, on s'intéresse en philosophie extrêmement peu à cette question, et même encore aujourd'hui, ils nous sont souvent assez seuls. Donc c'est une raison, on pourrait dire, pratique. Mais là, quand je disais que tu pouvais par ailleurs déçu, c'est peut-être que tu en as rendu compte quand tu lisais le texte, mais c'est. Comment dire, je suis très largement, même s'il y a des points de concordance, de résonance, notamment avec la Belle Époque, donc ce serait des propositions d'écologie politique avec lesquelles je me sentirais le plus proche, notamment en raison de sa dimension pragmatique, avant la lettre. Voilà. Pour autant, l'éthique environnementale américaine, qui a un corpus énorme, qui a des positions théoriques et épistémologiques bien particulières, ne sont pas forcément celles avec lesquelles je suis le plus.
Oui, que tu as des.
D'accord, maintenant, et voilà, ça pour le coup, j'avais. C'était, on va dire, plus parce que c'est avec eux que je suis, dans un premier temps, sur cette entrée morale des questions écologiques, il y a forcément une discussion à avoir, puisque ce sont principalement eux qui s'y sont intéressés. Encore une fois, je ne me retrouve pas nécessairement non plus dans ce que ce corpus-là peut proposer, à nouveau, parce que une grande partie de ce corpus-là, et c'est tout à fait son droit, et c'est très bien de le faire, mais ce n'est pas moi ce qui m'intéressait, encore une fois, principalement des points d'histoire de la philosophie sur cette question du concept de nature. En essayant, et c'est très bien, mais je suis ravie qu'il l'ait fait, mais
voilà,
c'est pas ce que je voulais faire, mais d'essayer de revenir sur une certaine extension de la philosophie morale au non-humain, de revenir sur des points des points très précis de construction, d'objectivité, de finalité, etc. Mais sans nécessairement, et c'était une critique qui leur a été largement adressée par l'écologie politique, justement, on va dire, articuler ces propositions-là avec la dimension politique de ces questions écologiques. Et qu'une des raisons pour lesquelles cette approche pragmatique m'intéresse, c'est que disons que c'est fondamentalement cette philosophie pragmatique qui refuse de séparer les dimensions politiques et éthiques. Donc là, c'est un ouvrage de philosophie morale, mais qui est avant tout pragmatique, et qui, en ce sens-là, passe un petit peu de la morale à la boutique.
C'est ça.
Maintenant, je peux me poser une question. Parce que, si j'ai le temps, on a 5 minutes ou...
Oui, voilà, on a un quart d'heure.
Ah bon, d'accord.
Oh, c'est royal.
Parce que ce matin, c'était plus. Moi, j'aurais bien aimé que tu fasses le lien comme certains, enfin si ça t'embête pas.
Non, vas-y.
Comme d'autres l'ont fait ce matin avec ton propre travail, puisque tu travailles sur. T'es en sociologie, tu fais une thèse sur la pratique du surf.
Voilà.
Et il se trouve qu'il y a une dimension, moi je connais très mal, on a eu l'occasion d'en discuter un tout petit peu, une dimension écologique de cette pratique-là.
Voilà.
Et moi, ce qui m'intéresserait notamment, ce serait. Est-ce que tu veux. Enfin, s'il y a des liens qui t'intéressent, articulations qui te.
Ah oui.
Qui te semble pertinente pour penser ta propre pratique, parce que finalement une des choses qui m'intéresse aussi dans cette approche de philosophie pragmatique, c'est à chaque fois pour pour reprendre une question qui était posée ce matin sous un autre angle des rapports entre philosophie et sciences sociales, c'est aussi d'être mise à l'épreuve.
Voilà, c'est vrai, c'est ça.
Des sciences sociales, quand moi je raconte mes affaires, c'est je suis pas sociologue, je suis pas éthologue, etc. Mais j'ai beaucoup travaillé à partir évidemment de pratiques sociales sur ces questions d'écologie, et la tienne en est une. Ça m'intéresserait de voir si t'as l'impression que c'est complètement à côté de.
Non.
ça compte pour moi.
C'est vrai. Alors non, justement, à vrai dire, c'est pour ça que j'ai choisi ton texte, parce que j'avais une intuition que ça allait forcément m'aider pour mes recherches, ce qui a été le cas. Justement, en fait, avant tout, ton texte m'a beaucoup éclairé dans la mesure où voilà, tu repenses et tu remets à plat cette conception d'interaction entre les non-humains et les humains. Or, c'est quelque chose qu'en sociologie, on s'intéresse avant tout à l'interaction entre les individus eux-mêmes, ou en tout cas l'individu et le groupe, et il me manquait un cadre théorique. Or, justement, dans mes recherches, c'est ce que... donc, au final, j'ai réalisé 40 entretiens, et dans ces entretiens, il y avait toute une dimension écologique. Je leur demandais, finalement, est-ce que tu te définirais écologique, ou finalement... Avant tout, en fait, avant de poser cette question-là, je m'intéressais à la relation qu'ils entretenaient avec la nature. Et c'est la première question. Quelle est la relation que tu as avec l'océan ? Et c'est là où ça devenait intéressant, où je me rendais compte, et c'est peut-être avec toi, sur ce point de vue-là, que je me rattache de point de vue concernant l'idée que notre relation n'est pas forcément naturaliste avec la nature, c'est que j'avais des gens qui avaient quasiment un caractère animique, justement, qui considéraient forcément, alors on a tous cette idée en tête de mer-océan, qui considéraient l'océan comme un milieu maternel, nourricier, et c'est d'autant plus le cas que dans les endroits où moi je surfais, on était maintenant forcément en interaction avec l'océan quand tu vas surfer, mais aussi avec les animaux, c'est-à-dire que c'est un milieu très riche, animaux marins, donc le plus souvent, alors après ça dépend des locations, mais en milieu tropical c'était tortues de mer qu'on voit souvent, là en Californie c'était dauphins et loutres, et donc en fait c'est des gens, et on voit clairement c'est des gens, quand ils vont dans l'océan ils sont à la recherche de la glisse, la sensation, le sport extrême forcément, mais c'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est d'être là, d'être dans son environnement qui bouge, qui a sa propre temporalité, qui a ses propres cycles, et c'est des gens qui en fait s'abandonnent dedans. Alors c'est bizarre parce qu'on se rend compte qu'en fonction des croyances religieuses des gens, ça change, c'est-à-dire que les chrétiens disent forcément que l'océan c'est Dieu, donc pour eux c'est Dieu qui se manifeste, etc. Alors que pour les athées c'est plutôt justement cette idée de Gaïa, quoi. C'est cette entité supérieure qui nous parle et à laquelle il faut savoir y répondre de manière adéquate, et c'est toute l'idée du surf finalement, c'est répondre à une onde, c'est pas battre ou se mettre en compétition contre une onde ou comme quelque chose de dur et de concret, mais c'est se glisser dans quelque chose qui est en mouvement, et il faut simplement l'accompagner en fait. Et donc ce qui m'a beaucoup intéressé en interrogeant mes surfeurs, c'était de me rendre compte comment, au fur et à mesure du temps, par tout un processus aussi de sacrifice, parce qu'en fait, devenir comme ça, vraiment changer son rapport avec l'environnement, considérer l'océan comme quelque chose de nourricier, de maternel, avec lequel on tisse des liens personnels, c'est faire des sacrifices par rapport aux autres et avec les humains. Parce que souvent, c'est des conceptions qui sont pas courante, et on passe beaucoup pour dans certains milieux on passe pour un idiot, clairement les surfeurs c'est la réputation du surfeur débile par exemple.
J'ai pas compris la question du sacrifice.
La question du sacrifice, dans la mesure où avoir ce rapport avec l'océan, on se rend compte qu'il y a différents degrés. C'est-à-dire qu'il y a différents degrés de relation entre les humains et les non-humains, d'abandonnement dans dans cet amour de l'océan. Et le sacrifice, plus il est important, plus on considère cet océan comme majeur dans sa vie, comme nourricier. C'est une notion de sacrifice dans la mesure où ça change l'emploi du temps des individus. C'est-à-dire que les surfeurs qui vont surfer l'après-midi en sortant de leur cours ou en sortant du travail, c'est des gens, l'océan compte pour eux, mais pas tant que ça. Les vrais du vrai, c'est ceux qui vont se lever à 4h du matin et qui vont surfer avant d'aller travailler. Ce qui est les trois quarts des gens que... que j'étudiais, alors ça d'abord implique un sacrifice temporel. Les trois quarts des gens ont une vie de famille et pour eux, il faut qu'à 10h ils soient couchés parce que le lendemain matin, à 4h, ils sont debout. C'est aussi un sacrifice de sentir fatigué toute la journée parce qu'on a effectué une activité physique pendant 2h le matin qui est éprouvante. Alors après, ça dépend du niveau de chacun, mais par exemple, dans certains milieux, ça surfer des vagues de 2 mètres, 2 mètres 50, c'est normal et c'est avant d'aller travailler, alors que ça demande un effort physique important. Mais pour eux, c'est tout ce sacrifice-là, il est récompensé lorsque l'on va dans l'eau, parce que c'est à cette heure-ci que l'océan devient calme. Parce que l'absence, en fait, je ne vais pas faire un cours de géologie, mais le fait que le soleil soit couché, qu'il ne réchauffe pas ni la Terre ni l'océan, fait qu'il y a moins de vent. Finalement, il y a moins de différence entre la température de la Terre et de l'océan, et par conséquent, on se retrouve à avoir un océan, une mer d'huile, en fait, qui améliore les qualités de la glisse, et qui améliore aussi, on a un rapport beaucoup plus privilégié avec ces animaux marins qui sont présents, parce que vous êtes peut-être 3-4 personnes dans l'eau, alors que dans l'après-midi, quand il y a 40 surfeurs dans l'eau, les animaux marins, ils s'éloignent des côtes parce qu'il est occupé par les humains. Et donc, c'est tout ce sacrifice-là, comparant, on ne sait pas faire des soirées, par exemple, ou parce que vous ne pas faire une soirée, parce que moi le lendemain ma priorité c'est d'avoir ce rapport là avec l'océan, c'est de ne pas socialiser, c'est enfin moi ça en parmi. Alors on se sociabilise mais avec les gens qui ont le même rythme de vie, et il y a d'ailleurs des mots pour ça. Ceux qui vont tôt le matin, c'est ceux qui en anglais c'est le first shift, après c'est second shift, c'est les tout premiers, ils sont dans l'eau entre 5h et 7h du matin. Après 7h du matin, quand on va surfer à cette heure là c'est déjà en retard, en fait. C'est déjà être un surfeur, mais pas aussi aguerri, pas avoir cette relation privilégiée que ceux qui vont dans l'eau à 5h du matin ont, en fait. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un sacrifice avec la société dans la mesure où on se déconnecte totalement.
Et juste une question, l'attachement que ces surfeurs ont apparemment manifesté à l'égard du milieu, ouais, dans lequel ils étaient, est-ce que par ailleurs, c'était des personnes avec des militants écologistes
Il y en avait, ouais, il y en avait. Alors c'est
complètement déconnecté de...
Ça, c'est différent. Alors, c'est bizarre. Ce qui m'a étonné, c'est qu'en fait, il y a tout. On peut très bien. Alors, moi, j'avais une personne qui était comme ça, et pourtant, son travail, c'était de vendre des maisons de luxe, en fait. Il n'était pas du tout écolo. En fait, c'est bizarre, c'est que c'est des gens qui n'ont pas, au quotidien, ils n'ont pas une éthique écologique. Ils ne vont pas avoir une bouteille d'eau recyclable. Ils vont jeter. Mais par contre, ils vont avoir des actions écologiques, être dans des organisations, faire partir de comités pour que la plage soit nettoyée par tel service. En fait, c'est assez ambigu, puisque ils n'ont pas au quotidien une pratique écologique, mais par contre, ils sont d'avis pour, une fois par mois, prendre leur vélo et nettoyer leur plage d'à côté, le beach cleanup, quoi. Et donc, en fait, j'avais tout. J'avais des gens qui étaient vraiment écologiques, engagés à fond, et à l'inverse, j'avais des gens qui étaient justement cadres supérieurs, qui allaient surfer, qui étaient dans des organisations environnementales, dans les cadres décisionnels, et qui pourtant avaient une empreinte écologique monstrueuse, en fait. Donc c'était marrant de voir, enfin étonnant de voir qu'il y avait tous les profils.
Est-ce qu'ils ont une sorte de conceptualisation de leur rapport au milieu marin, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des références justement à des philosophes, à des anthropologues, voilà. Tu parlais de Gaïa tout à l'heure, voilà. Des biologistes, n'importe quoi, voilà, c'est exactement. Ou alors est-ce que c'est une espèce de philosophie personnelle, autodidacte?
Voilà. Alors c'est avant tout personnel, autodidacte, chacun trouve ses raisons pour laquelle. Il y en a un qui disait, regarde, la salinité qu'il y a dans l'océan, c'est la même qu'il y a apparemment, alors il faut que je vérifie, mais c'est la même qu'il y a dans autour de notre globe oculaire, également la même qu'il y a dans le ventre d'une femme enceinte. Par exemple, à ce qui paraît.
Ah, mais c'est une super vieille idée. On trouve ça, c'est Chandor Ferenczi au début du siècle. Quoi. C'est, est-ce qu'il y a un lien ou pas?
Chacun faisait.
Est-ce que c'est
Chacun trouvait sa manière, mais la référence commune, et c'est pour ça que ma thèse étudie le surf depuis sa découverte de Hawaï en 1778 et retrace tout l'histoire hawaïenne, c'est la référence officielle, entre guillemets. C'est avant tout, c'est notre rapport à l'océan vient du rapport que les Hawaïens eux-mêmes avaient avec l'océan. C'est-à-dire un milieu nourricier, un milieu avec lequel on est, dans lequel on se sent bien. Enfin, faut savoir que les Hawaïens, pour la plupart des tribus polynésiennes, c'était obligatoire de nager 2 fois par jour, le matin au lever, le soir au coucher. Alors que, par exemple, à Hawaï, il y a la moitié des gens qui ne savent pas nager. Ceux qui, alors pourtant, ils habitent sur une île. Et donc, du coup, pour les serveurs, c'était ça. L'arrêt. Ils avaient tous fabriqué, il y avait une sorte de bricolage pour trouver une solution. Et je vous disais, ceux qui croyaient en Dieu trouvaient beaucoup plus de relations divines à voilà, un Dieu chrétien, alors que ceux qui étaient athées se bricolaient leur propre... comment dire, croyance, mais avant tout il y avait une référence commune qui était justement Hawaï, la Mecque. Voilà.
Encore une métaphore religieuse.
Ouais. Voilà, exactement.
Est-ce qu'il y a des questions à Émilie, à Jérémy?
Oui, Émilie, pour revenir sur un thème et un terme qui a été évoqué ce matin. Tu as des choses éthiques quand tu as évoqué ta distance vis-à-vis des scolaires. Nous ne sommes pas naturalistes. Alors, ça reste assez mystérieux. Pourquoi nous modernes ou occidentaux, je ne sais pas quel est le nous d'ailleurs, pourquoi nous ne sommes pas si naturalistes que cela?
T'as 2 minutes.
Mais pourquoi on serait, enfin, je veux dire, c'est une affirmation de sa part qui, enfin, d'accord, elle est étayée par d'accord. J'ai pas l'impression que cette cosmologie qui est censée rendre compte du rapport d'une certaine ontologie de qui, en effet, c'est bien la question, mais qu'est-ce qu'il dirait, quoi, des Européens depuis dans la modernité. En gros, c'est au départ, ça part de là, et après...
Ça part d'Aristote dans l'île de Nespola.
Ouais, ça part d'Aristote, enfin, j'ai l'impression que ça se construit principalement au 15e, 16e siècle.
Ouais, c'est ça, le grand partage.
Il me semble que ça peut tout à fait se discuter de savoir si la proposition, encore une fois, l'ontologie qu'il propose pour rendre compte de manière la plus générique de notre rapport à la nature est le seul qui peut exister, enfin, le seul qui existe de fait dans cette partie du monde et dans cette ère temporelle également. Et je ne suis pas certaine que ce soit le type de rapport moral qui soit majoritaire. Je ne suis pas certaine, je pense que c'est quelque chose qui existe, mais qui coexiste plutôt avec d'autres types de rapports. Alors après, tu faisais mention, et bien sûr c'est ce qu'il dit, puisqu'il dit qu'avant d'avoir été, si jamais on a été naturaliste, on aurait été animiste précédemment. Après, je ne sais pas si ça, je sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas dans quelle mesure, d'un point de vue philosophique, c'est pertinent de dire aujourd'hui qu'on sera animiste, je ne dis pas du tout ça. En attendant, il me semble en effet que ça coexiste très largement avec d'autres formes d'attachement qui ont été, qui sont, enfin, minorées, soit sous forme de culture populaire, soit sous d'autres formes, soit sous. Et je ne crois pas que ça correspond.
Voilà. Ce qui va dans ton sens, c'est que quand il illustre le fameux naturalisme moderne, il s'appuie sur les textes de philosophes classiques, de théoriciens,
Ça c'est encore, oui, c'est un autre problème de méthodologie par ailleurs. Enfin, pour toutes les autres cosmologies, il s'appuie sur
des mythes. Ouais.
Enfin, voilà, il s'appuie sur des textes liés à des terrains. Et quand il s'agit de nous, enfin, ouais, encore une fois, à nous, bon, hein, il s'appuie que sur des textes académiques qui sont des formes d'idéologie aussi liées à la nature, mais ça s'ajoute pour moi à ce point de discussion en tout cas.